Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Bienvenue dans Gymnastique sonore, une émission de l'association Bande Magnétique qui vise à développer vos biceps auriculaires grâce à des exercices hebdomadaires savamment élaborés par les auteurices. Clémentine a 16 ans en 1960, quand son pays devient indépendant. Aujourd'hui, Mathilde, sa petite fille belge, l'interroge sur son enfance congolaise. Elle découvre que sa grand-mère avait entrepris la même démarche 60 ans plus tôt, en questionnant ses parents à l'aide d'un petit enregistreur à cassette, l'un des premiers au Congo à l'époque. « Tu raconteras à mes petits-enfants ce que je te raconte aujourd'hui », dit la mère de Clémentine sur l'une des cassettes. Avec ses micros, Viviane de la Valleye a suivi Mathilde chez sa grand-mère. On écoute, tu le leur diras.
Depuis quelques mois, je vais chez une kinésiologue parce que ces temps-ci j'ai beaucoup de doutes et que la kinésiologie, ça me parlait. J'avais déjà fait ça une fois quand j'avais 15 ans, je pense. Au dernier rendez-vous, elle me dit un truc du genre... Oui, chez toi, il y a fuir pour survivre. Et elle me dit, ça peut venir d'avant toi. Et je dis, oui, j'en suis sûre. Donc, il y a quelque chose là qui vient de hors de moi. Sur le moment, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Mais en rentrant, donc juste une heure après, je vois le livre « Tu le leur diras » que Kaku m'avait donné, mais que je n'avais pas encore lu. J'attendais juste le bon moment, en fait, le moment où... j'allais le prendre et que c'était le moment. Et ce moment est arrivé. Donc je l'ai pris et puis je suis partie en train. Et dès les premières pages, il y avait écrit tel quel, enfin peut-être pas tel quel, mais en gros, il était décrit plusieurs événements de mon histoire familiale où ils avaient dû fuir pour survivre à des tueries. Ça m'a fait un petit choc. J'ai écrit à la kinésiologue, du coup, pour lui dire... ben voilà, je viens déjà de trouver un élément de réponse.
Il n'y a que moi quand même qui ai le sentiment d'archive. D'ailleurs, là, c'est simple, en famille, on m'appelle l'archiviste.
Tu le leur diras. Un documentaire de Viviane Delavelay.
Alors, il y a mon frère aîné, ton oncle Aloïs, qui est au Canada, qui m'avait offert un petit enregistreur comme ça.
Ah, voilà.
Oui, tout beau comme ça, et j'étais l'unique, peut-être, jeune fille au Congo qui possédait ça, et j'étais très fière avec. Et je m'étais là, et on parlait.
Okay.
Donc, on parlait de tout, et j'étais heureuse de pouvoir réécouter et faire écouter à mes amis. Donc, c'était pas... organisé du tout. Je ne savais même pas que ça se faisait. J'étais si jeune. Enfin, c'est-à-dire, je les accueillais comme des histoires. Je n'avais pas encore la maturité pour dire que c'était l'histoire de ma famille et tout. C'est beaucoup plus tard.
Mais il y a quand même un moment où tu as écrit un livre sur base de tes enregistrements. Et à quel moment tu t'es dit, ah, je vais enregistrer pour pouvoir faire ce livre ou pour pouvoir faire un projet?
Il n'y a pas eu de moment, je voulais seulement enregistrer. Et puis j'aimais écouter mon papa et ma maman parler de leur vie à eux. Et puis les parents nous racontaient toujours des contes et des mythes. J'aimais ça et puis voilà, c'était pour rien. Et puis plus tard, c'est-à-dire j'avais quand même environ 16 ans, j'ai pris conscience... Parce qu'un jour, je parlais avec mon papa, il m'a dit, tu as toujours des carnets, je crois que plus tard, tu vas écrire un livre. Mm-hmm. Mais moi, tu crois que je savais ce que c'était un livre. Et donc, je consignais dans des cahiers tout ce qu'on me racontait, je ne mettais pas écrit. Mon bureau ici, il y avait encore des cartons du déménagement. Donc j'ai dit, ces vacances, je vais les passer à ranger. Moi, je pensais que c'était des vieilleries. Et puis, j'étais assise là. Je commence à ouvrir des cartons. Je vois qu'il y avait beaucoup de cassettes du temps de mon adolescence. Donc Johnny Hallyday, Aznavour, tout ce que j'aimais comme jeune fille de cette époque-là. Et puis à un certain moment, j'ai vu sur une cassette écrit « Papa Kaku », c'est-à-dire « grand-père ». J'ai mis la cassette dans l'appareil. Et j'entends la voix de ma maman, mais ils étaient déjà décédés il y a longtemps. La voix de ma maman qui me dit, tout ce que je te raconte, maintenant tu raconteras à tes enfants.
Juste à ce moment-là.
Juste à ce moment-là. Donc c'était arrêté là. C'est comme ça que j'ai appelé les livres, tu le leur diras.
Si je m'intéresse à l'histoire familiale de Clémentine, c'est parce que moi aussi j'ai retrouvé une cassette audio. Elle contenait la voix rauque de ma propre grand-mère, formidable conteuse, que la Marlboro toujours pendue à ses lèvres a pourtant tuée, il y a bien longtemps, quand j'avais 10 ans. Mes grands-parents ont quitté ce monde trop vite, avant que je prenne conscience de tout ce qu'ils avaient encore à me livrer. Mathilde, elle, n'a pas attendu. Quand j'ai appris qu'elle interrogeait sa grand-mère Clémentine, j'ai pris mes micros et le train entre Bruxelles et Louvain-la-Neuve pour la suivre lorsqu'elle lui rendait visite. Une enquête par procuration qui m'ouvrait sur une histoire familiale, mais aussi sur la grande histoire du Congo.
Mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté.
Comme ça m'est venu, je me suis dit, tiens, mais elle est là, avec moi, et puis elle a vécu si loin, dans un autre espace-temps, puisque c'était complètement différent, et du coup, je me disais, mais je voulais savoir s'ils allaient à la piscine avec l'école, je voulais qu'elle me raconte des histoires drôles, des bêtises qu'elle avait fait quand elle était petite. Et puis, tout d'un coup, tu te rends compte que les gens qui t'entourent sont des livres ouverts, puisqu'ils ont plein de choses à raconter.
Clémentine est un livre ouvert sur un espace-temps lointain. Le Congo belge, où elle naît en 1944, soit 16 ans avant l'indépendance et les années troubles qui l'ont entourée.
Notre ferme résolution est aujourd'hui de conduire, sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée, les populations congolaises à l'indépendance, dans la prospérité et la paix.
En plus d'être grand-mère, Clémentine est écrivaine, philologue, ethnolinguiste, spécialiste de la symbolique africaine, première poétesse congolaise et première personne noire à enseigner à l'Université catholique de Louvain. Oui, tout ça. Mais à l'époque où commencent ses souvenirs, elle n'est encore qu'une gamine, qui entame sa scolarité dans les missions catholiques belges de la colonie.
Des transformations merveilleuses s'opèrent. Ses enfants, hier incultes, et sauvages, à peine couverts d'un pagne, deviennent disciplinés, lisent, écrivent et calculent.
L'année où j'ai commencé l'école, je crois que j'avais 5 ans, Donc, c'était à la mission, assez loin, on allait à pied. Et je me souviens que j'étais petite et qu'il y avait un de nos domestiques qui me portait et qui portait ma sœur sur les épaules là.
Il y a un cours que tu n'aimais pas à l'école.
Attends, il y avait quoi, le catéchisme? Ça, c'est vrai que je n'aimais pas du tout. Je ne comprenais rien. Je ne comprenais pas les paroles, ce que ça signifiait. Des histoires des anges, des histoires du diable. Et en plus, je ne comprenais pas la langue, parce qu'on parlait trop de langues, donc on n'avait aucune langue. À la maison, on parlait le tchiluba. Dans le quartier, on parlait le lingala. Et puis à l'école, on parlait la langue de la région qu'on appelle Kingwandi. Je me rends compte, hein, c'est peut-être pour cela que je suis devenue linguiste et tout ça. Je crois que ça vient de là, de la manière dont on a vécu avec plusieurs langues sans en avoir une à soi, quoi.
Tu te posais aussi beaucoup de questions sur la religion, les saints et tout ça, non?
On nous parlait des saints, on disait que c'était des gens qui s'étaient bien conduits, qui ont aimé les autres, qui ont rempli telle ou telle mission sur la terre. Moi qui trouvais que mon papa faisait tellement du bien, j'ai dit, mais c'est un saint, mais il n'y a plus de place sur le calendrier. Mais où est-ce qu'on va mettre son nom? Mais après, quand j'ai su qu'il n'y avait que des saints blancs, ça a ajouté. Donc, c'était une question philosophique, la métaphysique qui me perturbait. Je disais, mais où est-ce qu'il va aller, lui, puisqu'il n'y a plus de place?
Pays des fétiches. Les croyances de l'indigène, ces pratiques religieuses sont dominées par des conceptions magiques. Ils redoutent les esprits malfaisants. Ils croient aux manœuvres des sorciers et jeteurs de sorts. Ils recourent aux fétiches dans l'espoir de se libérer de leurs envoûtements maléfiques.
Et puis, même pour les noms aussi, je me suis posé beaucoup de questions. Bon, nous, on était baptisés, donc on avait des noms chrétiens. Déjà nos parents, déjà nos grands-parents avaient des noms chrétiens. Mais quand j'ai commencé à m'interroger sur mon nom à moi, c'est à l'école primaire. La traduction du mot qui signifie « nom », en tchiluba, on traduisait par « nom du diable ».
Qui pouvait soustraire le noir à ce joug satanique? Le christianisme et lui seul.
Oui, le nom chrétien, c'était le nom d'adepte du Christ. On n'a rien fait, mais on est quand même des adeptes du diable. C'est terrible. Et ça, je passais de nuit blanche avec ce genre de questions.
Et c'est quoi, du coup, ton nom d'adepte
du diable? Nzouji Madia. Le nom d'adepte du Christ, c'était Clémentine Gabriel.
Ton père m'a dit, dans cette école, on apprend à soigner les maladies. Tu vois, ma Bernadette, nous avons perdu beaucoup d'enfants, un décès succédant à un autre sans qu'on puisse y faire quelque chose. Je suis sûre que si nous faisons ces études médicales jusqu'au bout, nous ne perdrons plus nos enfants, parce que nous saurons comment les soigner et bien les éduquer. C'est ainsi que ton père a décidé d'aller faire les études d'assistant médical à Léopoldville et que nous sommes partis.
C'était des bébés, hein. Ma mère elle-même m'a dit, oui, mais tu sais, quand nous avons fait des études médicales, nous avons compris que l'un est mort de pneumonie, parce qu'il respirait de telle manière qu'ils ont compris, et puis l'autre est mort peut-être parce qu'on ne le nourrissait pas bien, de malnutrition. Ma mère avait 14 ans quand elle s'est mariée. Donc, elle ne savait pas vraiment comment soigner un bébé.
La malnutrition, c'est intéressant parce que du coup, c'est devenu aussi un des combats de ton papa.
Oui, justement. Mon père, surtout lui, avait une intuition de guérisseur. Il a sauvé quand même beaucoup, beaucoup d'enfants, hein, de la malnutrition, justement, parce que le système belge est arrivé avec, dans tous les domaines, quoi. Par exemple, on a trouvé les femmes en train de nourrir leurs enfants. Ça ne faisait pas assez civilisé. Il fallait donner du lait en poudre. Et les pauvres villageois, les gens simples, n'avaient pas assez d'argent pour acheter ce lait-là. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle diluait dans l'eau. Et au lieu de donner le sein, et l'enfant dépérissait. Et puis pour la nourriture, les gens s'étaient fait quand même beaucoup de complexes, ne mangeaient plus local comme ils mangeaient jusque-là, ils ne mangeaient plus ça. Ou bien ils mangeaient en cachette ou avec honte, comme si c'était pas bien. Mon père, souvent, il regardait l'enfant, il disait à la mère, « Va, achète le chenille au marché, tu piles, tu fais une poudre de chenille. » Combien d'enfants il n'a pas sauvé avec les chenilles? C'était pas dit d'une manière claire, mais cette nourriture-là n'était pas considérée. Pour être considérée, il fallait faire comme un blanc. Hein. Il y a beaucoup de choses que l'Afrique a perdues et qu'elle possédait, parce que souvent, on pense qu'elle n'a jamais eu. Non, l'Afrique avait ça. Quand je vois que nous, on mangeait bio, à cette époque-là, avant la lettre, le mot bio n'existait même pas. C'est extraordinaire. Et c'est comme ça. À la maison, il n'était pas question de chercher ce qu'on ne pouvait pas trouver dans son environnement immédiat.
Oui, allô?
Allô, Victor?
Siège à l'appareil.
Bonjour, je suis Viviane. J'ai eu ton numéro par ta sœur Mathilde. Je t'appelle parce qu'elle m'a dit que tu t'intéressais au projet qu'on est en train de faire ensemble avec Clémentine.
Oui, tout à fait.
Et elle m'a dit que tu étais éventuellement intéressée de te joindre à nous à une des sessions d'enregistrement.
Oui, moi je veux bien.
Bah, ce serait chouette, oui. Toi, tu t'es intéressée, en fait c'est Mathilde qui t'a un petit peu parlé de ça et tout d'un coup tu t'es dit...
En fait, Mathilde m'a un peu parlé... de ce projet, et je sais pas, moi ça m'a attiré parce que j'aime bien. Oh, vous savez quoi, je vais peut-être vous rappeler un moment où il y a plus mon petit frère dans la voiture, parce que c'est compliqué pour moi de me concentrer.
Ok.
Mais, oui, là ça va être peut-être un peu compliqué, c'est-à-dire que vous me dérangez pas, mais c'est Arthur qui me dérange. Donc ça va être assez technique.
Pas de problème.
Je peux vous rappeler peut-être ce soir lorsque je serai à mon cote.
Oui, on peut faire ça. Victor, là, on est dans ton...
Là, on est dans mon antre, là.
Dans ton antre, dans ta garçonnière.
Non, dans ma chambre, ouais, je
sais pas. Dans ta chambre de côte. T'as des dessins de Mathilde, d'ailleurs, à ton mur.
J'ai un peu des trucs de toute la famille. Des bijoux que ma grand-mère m'a donnés, que j'ai mis au mur. Des bijoux que j'ai achetés au Congo, que j'ai mis au mur. La question m'est venue, mais... est-ce que je connais vraiment, genre, ma grand-mère, quoi? Parce que je la connais en tant que grand-mère, qui nous fait du foufou, qui est très bon... Mais ça ne définit pas un être humain, ou peu, moins qu'une biographie tout de même. Et je me suis donc posé la question, mais quelle est la vie de mes grands-parents? Un peu plus tard, m'est venue cette idée de parler de sujets qui me touchaient. Et le sujet en question, c'était le racisme. Et je me suis dit que Kakou devait effectivement avoir pléthore de choses à me raconter à ce sujet. Et j'étais intéressé d'enregistrer... des questions que j'avais à lui poser, de faire des sortes d'interviews ou de recherches, comme elle aime à dire. Ça m'a même poussé à entreprendre un voyage au Congo avec elle. Ça m'a rapproché beaucoup de ma grand-mère, en fait.
Victor est le frère cadet de Mathilde. Ça m'interpelle. Sans se concerter, ils se sont lancés dans la même quête de réponses. C'est comme ça que je me suis mise à les suivre tous les deux, dans l'immense plaine des souvenirs de Clémentine. Ça roule?
Mmh. Et toi?
Ça va et toi?
Bien. Ah, ça, ça.
Bonjour Clémentine.
Bonjour.
Tu vas bien?
Ça va.
Pendant qu'on discutera, je ferai une photo. Ça dérange quelqu'un?
Okay. Si tu me donnes un droit de
c'est noir et blanc ou quoi?
Quoi?
Photo couleur ou noir et blanc?
C'est couleur. On verra que t'es noir.
Mais on ne voit plus les photos noires. Mais écoute, on met un fond noir.
Par contre, sur ces images, il n'y a guère d'Africains. Les seuls noirs présents sont des domestiques. D'une manière générale, au Congo belge, noirs et blancs ne se côtoient pas en dehors du travail ou des rapports commerciaux. En dépit des discours officiels qui fustigent la discrimination raciale, sociétés noires et blanches vivent de manière juxtaposée et l'on trouve de nombreux exemples de ségrégation. Dans les magasins, on fait la file séparément. Les Noirs ne peuvent pas fréquenter les mêmes établissements publics que les Blancs, écoles, hôpitaux, cinémas, cafés, restaurants. Même dans les villes, ils habitent des quartiers bien distincts.
L'administration de la colonie avait réparti les Congolais en catégories définies en fonction du niveau d'instruction et du mode de vie que l'on jugeait proche ou éloigné de celui des Blancs. Il y avait ainsi les élites, qu'on appelait les évolués, et les indigènes. Pour certains évolués, cette reconnaissance était élevée au statut d'immatriculé par l'octroi d'une médaille et d'une carte de membre appelée « carte du mérite civique ». Les fonctionnaires immatriculés et leurs familles pouvaient jouir de certains privilèges réservés aux Européens. Ils pouvaient habiter dans le quartier réservé aux Blancs, aller voir des spectacles réservés, faire des achats dans des magasins réservés, participer à des événements réservés tels que les festivités organisées à l'occasion de la fête nationale belge, le 21 juillet. Leurs enfants pouvaient étudier à l'école des enfants blancs et participer au même titre à des fêtes pour enfants telles que la Saint-Nicolas, le cirque, etc.
Dans le livre, tu écris que on leur avait proposé d'aller vivre dans le quartier des Blancs, mais que c'était pas un avantage, en fait, c'est que ça privait de liberté.
Mon père a choisi de ne pas aller vivre avec des Blancs. C'est tout. En disant, et mes frères, quand ils viendront en visite chez moi, pourquoi je ne peux pas les recevoir?
Ça ne m'évoque rien de ce qu'on m'a appris à l'école, en fait. On va jamais parler en mal de nous, quoi, de la Belgique. On va survoler à un moment donné les mains coupées parce que c'est le truc le plus connu. Mais tout ça, toute cette organisation, c'est hyper historiquement intéressant, quoi, comme plein de choses. C'est horrible, mais intéressant. On n'en parle pas, quoi. Moi-même, j'aurais pu ne pas être au courant si j'avais pas parlé à Kaku, tu vois. J'aurais juste vécu dans l'ignorance tout le reste de ma vie, alors que c'est une partie. Je suis, par contre, content d'apprendre. Enfin, content d'entendre, même si je le savais déjà, que par exemple mon arrière-grand-père a décidé de pas aller dans le quartier des Blancs et tout ça, parce que ce serait donner raison aux gens qui mettent en place ce système qui est pas ouf.
Nous quatre étions placés à une table réservée aux enfants dévolués et aux filles métisses reconnues. J'ai l'impression que les dimanches et les jours de fête, nous avions droit à un régime spécial. On nous servait de la viande, alors que les autres élèves mangeaient des sardines en boîte ou du corned beef. C'est longtemps après que j'ai pris conscience de cette différence de traitement.
Du coup, pour toi, lorsque tu vivais au Congo, est-ce que ça avait une signification particulière d'être classé dans les évolués, donc d'être classé un peu dans l'élite? Est-ce qu'on peut dire ça, l'élite des Noirs? Je ne sais pas si c'est...
Oui, on les appelait élites. On avait un autre statut social. Mais moi, je n'ai jamais abordé avec vous des questions de racisme ou de inégalités sociales parce que je trouve que ce n'est pas important dans la transmission que j'ai à vous donner. Vous apprendre comment étaient vos arrière-grands-parents vous donne des modèles sociaux, des modèles de comportement, un type de manière de penser qui me plaît. Mmh. Vous voyez bien que je ne suis dans aucun mouvement, que ce soit du côté belge ou du côté congolais, parce que je ne ressens rien. Je trouve que ce n'est pas ça qui va vous construire. C'est ce qu'ils ont fait, eux. Alors ces histoires de colonies, ça ne me concerne pas et je n'en parlerai pas. Ce n'est pas notre problème, c'est un problème belge. C'est une manière de vivre que j'ai racontée, mais pas une politique. Je n'approuve pas cette mentalité des gens qui veulent soit se déculpabiliser et d'autres qui veulent culpabiliser les autres.
Mais je me demande juste, est-ce que c'est pas légitime d'avoir parfois un peu de rancœur historique? Des fois, je me sens pas bien par rapport à certains trucs et je me sens révolté. Je pense que c'est normal tout de même, non?
Ah, c'est tout à fait normal et tu vois que avec moi, je t'ai parlé sincèrement et de souffrances que j'ai traversées et d'autres qui restent présentes, qui ne partiront pas parce qu'elles ont été là. Mais ici, si je te raconte, c'est pour que les gens le sachent, pour que ça ne puisse pas revenir. Mais ce n'est pas pour aller réveiller les souffrances.
Il n'y en a pas. Qu'est-ce que tu cherches? La viande hachée.
T'as trouvé?
Non.
Mais tu peux aller faire les courses, on est éventuellement en ville.
Oh, si tu vas chercher de la viande hachée.
Je vais pas aller marcher tout seul.
Moi j'ai faim là, j'ai vraiment très faim.
Tu veux pas me aller grailler un truc sur Louvain, en ville?
Tu vas aller acheter de la viande hachée?
Allez,
alors
chercher quelque chose en ville et je fais un repas sérieux le soir.
Tu pars à quelle heure, Mathilde?
Quoi?
Tu pars à quelle heure?
Je sais pas, j'ai pas encore vu, mais plus tard possible. Tiens.
Donc comme ça, on peut discuter un peu de...
Ah mais oui, c'est le soir que je pars.
Les personnes qui entraient et sortaient de la maison étaient plus jeunes que nos parents et s'appelaient Albert Kalungi, Patrice Lumumba, Joseph Kabeya, Aloïs Kabangi, Manono Dominique et bien d'autres. Les mots qu'ils murmuraient étaient « conscience africaine »,« indépendance », »,« négociation ». Certaines de ces rencontres avaient des allures de conciliabule, car sous peine d'aller en prison, il était formellement interdit aux fonctionnaires congolais de l'État belge de faire de la politique. Je ne saurais dire à partir de quand Patrice Lumumba a commencé à venir à ces réunions, mais je sais qu'il avait tenu son premier meeting politique adressé aux jeunes du Kasaï dans notre hôtel, hôtel-restaurant africain, avenue Louébo à Luluabourg, et que vos arrière-grands-parents avaient pris à leur charge tous les frais occasionnés par cette manifestation. Qui l'eût cru ? J'assistais ainsi sans le comprendre vraiment, et dans notre propre maison, à la préparation de l'avènement de l'indépendance du Congo dans le Kasaï.
À chaud comme ça, est-ce que tu te dis pas un peu « Waouh, il y a de l'histoire là-dedans » ?
On dirait comme dans un film un peu. C'est qu'il y a tellement de trucs incroyables que j'apprends tout le temps, autant sur ma grand-mère que sur mon grand-père. Je suis pas surpris. On va dire, je suis surpris mais pas étonné, voilà.
Moi, j'étais une gamine qui servait le café, qui allait chercher des cigarettes. Je ne parlais même pas le français. J'entendais deux mots. Indépendance. Qu'est-ce que ça pouvait dire à...
Indépendance. Tcha tcha.
Je ne crois pas que je peux en parler en tant que souvenir d'une manière intéressante, à part dire, voilà, des gens venaient, Kalungi, Lumumba, ils venaient parler, j'entendais des bruits de conversation avec des mots comme... Renaissance africaine, des choses comme ça, indépendance, questions royales. Il y avait des questions qu'ils appelaient les questions linguistiques.
Ce doit être vers cette époque aussi que j'ai entendu pour la première fois dans notre salon des bribes de phrases comme « querelle linguistique » ou « frontière linguistique en Belgique ».
car notre père et ses amis lisaient assidûment les journaux belges qui arrivaient facilement dans les villes importantes de la colonie. Dans leur conversation, ils semblaient dire qu'il y avait en Belgique deux langues, le français et le flamand. Que la langue flamande était jugée inférieure par une partie de la population belge qui ne voulait ni l'apprendre ni la parler.
Ils trouvaient que le belge n'était pas malin du tout. Les uns refusent d'apprendre la langue des autres. Parce que les Africains, plus ils connaissent des langues, plus ils sont fiers. Parce que ça leur crée de nouvelles relations. Le fait seulement que toi, tu parles ma langue, tu deviens comme un frère. Et ça, c'est des discussions que j'entendais, surtout mon père avec ses amis. Mais sinon, des questions politiques pour dire qu'à mon âge, je peux analyser si je fais un effort. Mais ici, j'ai décidé de ne pas faire l'effort.
J'entends cette volonté de Clémentine de ne pas parler de politique. Mais connaissant l'influence de son père à cette époque, ma curiosité n'est pas satisfaite.
J'ai ici face à trois personnes pas très tournées, qui veulent même s'extraire de tout ce qui est politique et tout. Donc moi personnellement, et j'ai l'impression que vous deux c'est pareil, j'ai l'impression que maman c'est pareil... On s'intéresse pas trop à ça, et donc moi aussi c'est pour ça que j'en parle pas, parce que j'en sais trop peu pour pas dire que des bêtises, quoi. Si tu voulais un aspect plus politique, trouver une personne qui pourrait vraiment... tu dois avoir des contacts qui pourraient être intéressés, hein, mais...
Tu fais bien de l'aider, parce que j'allais suggérer l'idée d'interviewer Norbert.
Malou. Adi mumu kandevu, mandondele kuji Nikola kadi manzuji. Tatu mundeji. Ni Bernadette mwaka, mamu mundeji. Mandondele vivobu bamone ni mesu, abu, ngayabu. Ni mvobu bumvwa, jiba jivwa malu, au menzeka. Mumone ku jabu jimona. C'est-à-dire, ils me racontent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux, et aussi ce qu'ils ont entendu.
Et elle parle de son papa et de sa maman, là.
Mm-hmm. L'objet du livre, au fond, hein, c'est ce que ses parents lui ont raconté.
Quel est votre lien de parenté avec Clémentine et sa famille ?
La mère de Clémentine est mon grand-père maternel, son cousin. Nos mères étaient à l'école d'accoucheuse, nos pères à l'école d'assistants médicaux.
Votre père, il est sur la photo là aussi, en dessous ? Il devrait...
Oui, oui, oui. On ne voit pas bien, mais il doit être là, au fond, tout à fait. Le père de Clémentine, Nicolas, est ici.
Vous êtes au courant qu'il y avait notamment Patrice Lumumba qui est passé, qu'il y a eu d'autres personnes importantes comme Kalonji, toutes des personnes qui ont façonné...
Kalonji, c'était un habitué de la maison. Alors, il y avait toujours du monde défilant comme ça, même les Tshisekedi. C'est chez Clémentine que j'ai connu Tshisekedi, moi. Il était encore étudiant à l'université, il faisait le droit. Lumumba était venu une fois là. Le seul meeting qu'il a tenu à Lubourg...
Nicolas, il a pas mal aidé, donc il a participé aux négociations officiellement, ou est-ce qu'il était plutôt un conseiller ? Quel a été son rôle ?
Éminence grise. Les négociations au niveau de Bruxelles, non. Mais au niveau provincial, oui. Tous ces gens-là venaient lui demander conseil sur comment procéder, comment faire ceci, cela. On l'appelait doyen. Il y a des gens comme cela, hein, qui sont nés leaders.
Peuple congolais, mon pays et moi-même, nous reconnaissons avec joie et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Que Dieu protège le Congo.
Voici venu le jour solennel de la proclamation de l'indépendance congolaise.
Table ronde, indépendante. Table ronde, Kenabolia, indépendante.
La parole est au Premier ministre du Congo.
In dat sens spreken eerste minister Lumumba.
Voici maintenant monsieur Lumumba qui monte devant le bureau présidentiel.
Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants.
Kaku, t'étais où le 30 juin 1960 ?
Vous cassez ici, à leur tour, fasse connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté.
Mais ça remonte à très loin, je ne me souviens plus de grand-chose. Mais je sais que le mois de juin approchait, les internats ont été fermés parce que les prêtres et les religieuses qui tenaient les internats avaient peur de ce qui allait se passer. Donc, ils ont renvoyé les élèves chez eux, dans leur famille. Et nous, les parents habitaient très loin, et les parents nous ont confié aux sœurs en disant, bon, gardez nos enfants jusqu'au moment où on viendra les chercher. J'étais la plus âgée, j'avais 16 ans. C'est comme ça qu'on est resté chez les religieuses. Parce que le jour même de l'indépendance, nous étions à l'internat.
Mais du coup, oui, je me demandais comment vous l'avez su que c'était le jour de l'indépendance, puisque vous étiez à l'internat comme ça.
Il y a peut-être une religieuse qui est venue et je nous vois au réfectoire, on mangeait avec elle. Et qui nous annonce que voilà, c'est l'indépendance.
Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment ?
J'étais dans une peur terrible là. J'avais peur. Parce que pendant ce temps, on n'avait plus de nouvelles de nos parents. Parce qu'eux aussi étaient dans l'exode. Ils quittaient Luluabourg pour aller au Kasaï oriental, s'installer. Parce que notre papa était nommé ministre de la Santé, ministre provincial. Donc, il partait dans la région du Kasaï oriental. Et c'était vraiment une période de trouble.
On commença à entendre ça et là parler de tensions entre les Baluba et les Luluwa. On les sentait monter. Des associations ethniques commençaient à se former ou à s'exprimer ouvertement. Le caractère apolitique des Luluwa frères leur valut le soutien affiché ou sous cap de l'administration coloniale et des missions catholiques qui n'hésitaient pas à monter l'un contre l'autre, les deux groupes, en prenant parti pour les Luluwa. Ce sont ces deux grands mouvements ethniques qui s'affrontèrent et qui ont abouti au départ des Baluba vers les terres de leurs ancêtres.
La peur, c'était aussi de ne pas voir les parents, de ne pas savoir ce qu'ils étaient devenus, parce que ça, personne n'avait plus de contrôle. Et puis, de ne pas savoir quand on allait le revoir. Et c'était vraiment l'inconnu.
Et vos parents ne vous écrivaient pas ?
Mais la poste, rien ne fonctionnait. Hein.
Et combien de temps vous êtes restés ?
Mais ça doit être donc du mois de juin jusqu'au mois d'août. Parce que chaque jour, on attendait de savoir s'il y aurait un avion ou pas. Mais il n'y avait plus d'avion puisque les pilotes et les avions, c'était des Belges. Et les Belges étaient partis. Et puis, chaque jour, le père de la mission passait pour dire aux sœurs, non, il n'y a pas d'avion aujourd'hui, et puis nous, on rentrait. Puis un jour, on voit, je crois que c'est le frère Célestin, qui dit, voilà, il y aura un avion. Apprêtez-vous. Et nous, on avait des petites valises, là, en carton, comme dans l'ancien temps. Et on est entrés dans l'avion. Il y a eu alors un pilote belge, d'une méchanceté comme on ne peut pas imaginer, oui. Hein. Et c'était quand même un événement pour lui, cet homme qui n'avait peut-être jamais conduit des Noirs dans son avion, et il avait peur. Et à un certain moment, on devait faire une escale à Chicapa. Et il y avait sur l'avion un étudiant en médecine. Il devait descendre à Chicapa, c'est là où habitaient ses parents. Mais là, dans l'aéroport, on a trouvé déjà des gens qui se battaient avec des machettes et tout, et qui regardaient dans l'avion s'il y avait des gens de leur côté ou de l'autre côté. Et l'étudiant, on le cherchait pour le tuer, en disant « c'est un Moulouba, il faut le tuer ». Et le pilote, il avait le pouvoir de décoller. Hein. Et comme ça, il sauvait le garçon continuait avec nous sur l'avion, même s'il ne devait pas continuer. Le pilote sort ça, je n'oublierai jamais. Il commence à rouler hein, sur le tarmac. Il roule jusqu'au fond là-bas. Et puis, il fait demi-tour. Il revient là où on voulait qu'on sorte. Et on a sorti cet étudiant en médecine. Les gens étaient autour de lui avec des machettes et tout. Et nous, on a compris qu'on allait le tuer, quoi. Et moi, j'avais quoi, 16 ans, ma sœur, 14 ans, et l'autre plus jeune encore. Et on pleurait dans l'avion, on tremblait, on pleurait. Alors, nous sommes partis. Un jour, plusieurs années après, notre papa était malade. Il y avait un médecin qui était penché sur lui et qui le soignait. Et il s'est souvenu de nous qui étions dans l'avion avec lui. Alors, il a demandé à notre papa s'il était notre père. Notre papa a dit oui. Donc, par hasard, il est revenu dans notre famille par ce biais-là. Il est devenu comme un enfant de la maison. Donc, ils n'ont pas réussi à les tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui a imité l'accent de la région. Il a dit, non, moi je suis de votre, regardez. Il dit le nom de l'homme politique hein, qui faisait des intrigues là. Il dit, mais c'est lui qui m'a envoyé pour faire la propagande pour lui. Donc, je ne suis pas votre ennemi, je viens pour soutenir notre candidat. Et les autres qui n'étaient pas... c'était des abrutis. Ils ont cru à ça, c'est un de nôtres. Donc, ils ne l'ont pas tué. Et il est devenu le médecin de notre papa.
Papa nous attendait à l'aéroport de Bakwanga avec notre fidèle chauffeur. C'était l'époque de l'exode des Balouba vers leur terre. Il en venait de partout. Les uns du Katanga, d'autres de Luluabourg et des localités environnantes. On les appelait des réfugiés. Tout au long de la route qui nous conduisait à notre maison, je voyais des familles installées vaille que vaille, dans un dénuement total. Je foulais pour la première fois la terre des Balouba, la terre où avaient vécu mes lointains ancêtres, et je sentais monter en moi une émotion inexprimable. Le jeune gouvernement formé par Albert Kalonji, dans lequel votre arrière-grand-père occupait le poste de ministre de la Santé, n'était pas organisé de manière à faire face aux vagues de réfugiés, qui arrivaient de partout, de jour comme de nuit. Et dans certains villages, l'instinct de rejet prend la place de l'élan du cœur. La désolation était absolue.
Pour revenir à Nicolas, quel a été son rôle après l'indépendance?
Le père de Clémentine.
C'était tout indiqué que s'il n'est pas chef de province, il soit au moins ministre. Ministre, évidemment, de la Santé, ça allait de soi.
Parce qu'il a été ministre de la Santé du Kassai.
Oui, du Kassai, comme on disait, du Sud Kassai, parce qu'il y avait déjà deux Kassai en ce moment-là. Il est parmi les gens qui ont fondé l'autre Kassaï.
Comment est-ce que les choses ont évolué? Pourquoi ça s'est arrêté? C'est entre Nicolas et Kalonji que ça ne s'est pas bien passé. C'est ça qui a expliqué son emprisonnement?
C'était une mésentente au sein du cabinet qui veut noyer son chien, l'accuse de rage. Le père de Clémentine, ce n'était pas quelqu'un qui se laissait faire comme ça. Il donne son point de vue.
Et comment est-ce qu'il s'est retrouvé en prison?
C'était des prisonniers politiques. Ils n'avaient pas fait autre chose que d'émettre leur opinion sur la gestion de la province. Est-ce qu'on ne pensait pas même à le liquider? Je ne sais plus.
Quand il a été libéré, ça a été un vrai soulagement, alors?
Il était devenu un peu persona non grata, parce qu'il était arrêté injustement, il paraît. Donc, libéré, il devenait quand même inquiétant pour les gens au pouvoir. Le liquider, ça allait... On allait tous se révolter.
En prison, il était encore très influent. Si on l'avait tué...
C'est ça, il devenait martyr.
Il devient martyr et il suscite la révolte.
Oui, oui, ça, c'est poursuivre, oui.
Et donc, la solution, c'était de le libérer.
Libérer.
Mais j'ai peut-être une dernière question sur ton papa. Tu sais pourquoi il a été libéré?
Pourquoi?
Ouais.
Non, vaguement. Hein. Je continue à dire que c'est vaguement parce que il y a quand même une chose à laquelle on doit faire attention. Je préfère m'entendre dire j'ai oublié, je ne me souviens pas, plutôt que de raconter quelque chose qui serait une interprétation d'une vieille femme d'aujourd'hui sur un événement d'il y a plus de 50 ans. Quand même, les militaires qui surveillaient étaient divisés. Il y en avait qui voulaient les tuer, d'autres pas, et ils se sont battus. Et ceux qui voulaient les libérer l'ont libéré. Et l'affaire est finie comme ça. C'était compliqué. Donc, si quelqu'un qui a participé à la libération de mon père entend dire que, bon, ils étaient mauvais ou quoi, il va avoir mal en disant, voilà, ses enfants ne reconnaissent pas que c'est grâce à nous qu'il a été libéré. C'est pour cela que je n'aime. Même pour les autres aspects politiques, je trouve que c'est tellement délicat. J'ai écrit ce que ma mère m'a raconté. Et c'est déjà le récit d'une personne qui était concernée directement, puisque c'était son mari. Elle a raconté avec ses mots, ses sentiments, hein, ses souffrances. Ça suffit.
Coucou.
Coucou, ça va?
Ouais.
Moi, je suis désolée, je suis en retard. On va en bas?
Non, après, on ira ici.
Ok, bah, je dépose juste mon sac.
Ouais.
Tu m'as dit que tu avais recommencé des études en bande dessinée à Saint-Luc et... Tu m'as parlé du thème de cette année, en tout cas de votre travail. Raconte-moi un peu.
Oui, donc je fais un master en bande dessinée à Saint-Luc, à Bruxelles. Et pour le premier quadrimestre ici, je savais qu'on allait faire de la BD informative, mais je connaissais pas le thème. Et quand ils ont sorti le thème, c'était vraiment drôle parce que, en fait, le thème c'était les angles morts de la décolonisation en Belgique. Sur le moment, j'ai eu j'étais un peu en mode m'aller, un peu saoulée, je voulais quelque chose de nouveau, et voilà, on me resserre du Congo. Et puis, plus je me suis dit non, plus les profs parlaient, plus je me suis rendu compte qu'en fait, ça s'inscrivait dans une continuité de ce que je faisais déjà dans ma vie, à une toute petite échelle, vraiment. Je fais juste mes petits trucs pour aider ma grand-mère, mais finalement, c'est un truc parmi d'autres qui, comme un engrenage, quoi.
Toi, t'as demandé à Clémentine de répondre à tes questions et de raconter un petit peu des choses de son enfance. Et aujourd'hui, c'est Saint-Luc qui te demande de t'exposer, de raconter.
J'ai pas fini. Et du coup, je travaille à l'encre de Chine. Et donc, tu peux regarder si tu veux. Ça, ce sera la couverture. Tu veux que je te lise les portraits aussi?
Ouais.
Moi, j'ai mis un portrait bien éloquent pour montrer que le Congo, moi, j'en avais déjà bien à la maison. Du coup, j'avais mis première personne noire, professeur d'université en Belgique, anthropologue et linguiste, spécialiste des symboles africains
écrivaine de renommée internationale, reçoit un prix African Awards en 2022. Et puis là, il y a une description de la grand-mère en question, hein, Clémentine Faïgnouzouji, maintenant vous la connaissez aussi bien que moi.
Tu le leur diras est un documentaire de Viviane Delavelay, produit par CIO Productions. Prise de son, Viviane Delavelay et Céline Lemoyne. Musique, Leopoldo Profili. Montage, Yves Robic et Viviane Delavelay. Mixage, Yvon Anon, avec les archives de la SONUMA et des extraits du livre « Si le Congo m'était compté » de Clémentine Faïk-Nzouji. Avec le soutien de l'ACSR et du Fonds d'aide à la création radiophonique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci à Clémentine Faïk-Nzouji, Mathilde et Victor Pirotte et Norbert Katanga, ainsi qu'à Céline, Xavier, François, Léon, Merlin et toute l'équipe de la CSR.
Gymnastique sonore, c'est fini pour cette semaine. Vous avez entendu Tu le leur diras, un documentaire de Viviane Delavelay. Pour retrouver toutes les archives de l'émission, rendez-vous sur canalb.fr. À bientôt.
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.